France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Ils sortent le quatrième et dernier tome d'une série à succès, Le Château des Animaux. Le dessinateur Félix Delep et le scénariste Xavier Dorizon seront mes invités à partir de 13h. Et on commence ces midis avec la critique. Aujourd'hui, on découvre la place fondamentale de la musique dans l'œuvre de Kandinsky avec une exposition à la Philharmonie de Paris. Et puis le Centre Pompidou explore les trésors contenus dans son cabinet d'art graphique et expose plus de 300 dessins au Grand Palais. Vous écoutez les midis de culture et c'est bon comme ça. Pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie, Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition, bonjour.
Bonjour Marie.
Stéphane Coréard, éditorialiste au Journal des Arts, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Wagner, Moussorgsky, Schoenberg ou comme ici Stravinsky, de nombreux compositeurs ont profondément marqué l'œuvre de Vassili Kandinsky. Le peintre, né en Russie en 1866, lui-même un musicien amateur, racontera comment, en assistant à une représentation de Lohengrin de Wagner, il vécut une forme de révélation, la musique faisant apparaître devant ses yeux des lignes et des formes. L'exposition à la Philharmonie de Paris s'écoute autant qu'elle se regarde, elle montre comment la musique a accompagné la démarche de Kandinsky vers l'abstraction. On commence avec un premier avis en quelques mots, Stéphane Coréard.
Oui, alors comme la seconde exposition dont on va parler aujourd'hui, celle-ci est aussi organisée par le Centre Pompidou, hein, dans le cadre de ses programmes hors les murs, pendant sa fermeture, de ses constellations. Et l'exposition s'appuie d'ailleurs sur un fonds unique qui provient du legs de Nina Kandinsky, qui date de 1981, mais aussi de prêts majeurs, notamment allemands et américains, qui permettent ici de reconstituer des ensembles qui sont d'habitude rarement ou jamais réunis. C'est aussi une autre manière de voir de la peinture, puisqu'on a les écouteurs vissés sur les oreilles, avec de la musique, beaucoup de musique, mais aussi des mots, parfois peut-être trop de mots, justement, pour pleinement rentrer dans les tableaux et dans les sons. Ça permet d'attirer un public différent, qui donc justifie aussi d'aller voir une diversité de publics grâce à ces constellations. Le thème lui-même se justifie pleinement parce qu'il y a un lien intrinsèque très fort entre les expérimentations musicales du début du XXe siècle et la naissance puis le développement de la peinture abstraite. Ça avait fait l'objet d'une exposition au musée d'Orsay il y a une vingtaine d'années sur les origines de l'abstraction. Et ça a une importance particulière pour Kandinsky, effectivement, lui-même, dont l'exposition est aussi en filigrane une rétrospective.
Sally Bonne.
Oui, alors résonance, composition, improvisation, vibration sont les maîtres mots de cette exposition qui quand même, c'est un vaste ensemble. Il y a des tableaux, des dessins, des matériaux divers, des partitions, des objets, des films, des collections de disques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et qui montre l'œuvre de Kandinsky dans un déploiement assez plein de vigueur, on va dire. Outre ce que l'exposition fait voir, c'est une autre manière de regarder l'œuvre du peintre. Elle fait aussi comprendre un de ses ressorts majeurs, qui est la recherche d'une forme picturale, non figurative, non naturaliste, et qui passe justement par la musique, hein, ce que Stéphane Coréard vient de dire. Donc c'est parfois assez fouillis. Je pense que c'est aussi lié à l'espace dans lequel l'exposition a lieu, hein. Il n'est pas pour rien dans l'impression de parfois un peu oppressant parce que c'est sombre, mal agencé, peut-être aussi sans doute trop petit pour montrer tant d'œuvres, hein, qui du fait de ce fait ne respirent pas. Mais pour une fois qu'on a dit ça, on peut quand même apprécier tout ce qui joue dans cette exposition et notamment de faire apparaître comment la musique, si importante pour Kandinsky à mains endroits, est un modèle pour repenser profondément la théorie de l'imitation.
Stéphane Coréard, alors qu'est-ce qu'on voit exactement?
Alors dans ce fouillis effectivement un peu sombre, surnage quand même, ou explose même en couleurs, parce que Kandinsky quand même c'est... D'ailleurs l'exposition s'appelle La musique des couleurs, ça peut être aussi... la couleur des musiques, d'une certaine manière, c'est dominé quand même par des ensembles exceptionnels, je l'ai dit, hein, donc c'est rythmé en fait par des ensembles d'œuvres qui sont ici rassemblés, qui montrent son évolution, qui est marquée au départ par l'art populaire, par des effectivement aussi des références figuratives, qui petit à petit s'estompe, il s'en affranchit, et la peinture devient de plus en plus didactique aussi à l'époque où il enseigne au Bauhaus, hein, plus dans les années 20, et avant de se figer dans une forme d'académisme abstrait, ce qu'on voit à mon sens vers la fin. Dans ces ensembles, y a d'abord les improvisations. Là, on est entre 1908 et 1911, où là, effectivement, c'est la découverte de l'abstraction. On dit souvent que, avec sans doute Picabia, Francis Picabia, Kandinsky est l'inventeur de l'abstraction. On connaît l'anecdote, il a vu un de ses tableaux à l'envers dans son atelier, et il n'a pas vu ce que ça représentait, mais le tableau l'a séduit. Il en aurait tiré cette manière de travailler à partir d'improvisations, donc qui sont des tableaux abstraits, des maelstroms comme ça, d'ardents rythmes colorés, où surnagent des références figuratives, souvent un cheval, un arbre, un rempart d'un bâtiment. Parfois, on a l'impression d'être chez Sac ou du Buffet, donc presque du côté de l'art brut. Moi, j'aime évidemment beaucoup cette période. Et puis, il y a une salle assez passionnante, c'est tout son travail autour des tableaux d'une exposition, 1928, où effectivement, là, il réfléchit à une projection scénique de sa peinture abstraite, et là son vocabulaire se met en place, et on voit, et d'ailleurs grâce à un film d'animation qui est postérieur, hein, qui est je crois d'ailleurs apocryphe, mais que ce vocabulaire est combinatoire et évolutif et peut se déployer effectivement dans l'espace. Ce qu'on voit dans la salle d'après avec les maquettes du salon de musique qu'il a réalisé pour l'exposition d'architecture allemande de Berlin en 1931, où là ce sont des mosaïques, des céramiques murales, hein, où effectivement un peu à la manière d'Auguste Herbin, dont on avait parlé de la rétrospective au musée de Montmartre, Kandinsky recherche des correspondances entre les sons, des formes géométriques, des couleurs, une sorte vraiment de vocabulaire dans le sens où il y aurait une signification, une manière de raconter des choses, d'introduire aussi une temporalité dans ces compositions abstraites, finalement décoratives. Et puis à la fin de l'exposition, il y a les compositions 8, 9 et 10 qu'il a réalisées entre 1923 et 39 pour la dernière, qui est une véritable leçon de peinture abstraite qui cherche à englober et à recracher d'une certaine manière sur toile l'ensemble des formes, qu'elles soient géométriques ou plus organiques, et des couleurs qui peuvent être diurnes, nocturnes, très contrastées ou au contraire fondues, dans des compositions mais qui sont si sophistiquées que, à mon sens, il manque la fraîcheur finalement et la spontanéité du début. C'est une leçon effectivement magistrale, mais peut-être un peu moribonde et désincarnée, malgré ses efforts pour aller dans la matière où il essaye d'apporter de la sensibilité, notamment des vibrations de la touche. Néanmoins, à mon sens, il devient une espèce de statut du commandeur de la peinture abstraite. Finalement, au moment, on est à la fin des années 30, début des années 40, où cette peinture va dominer le monde en fait pendant 20 ans et on lui aura plus que ça.
Salimone.
Oui, d'une certaine manière, la fin de l'exposition et l'envers même de tout ce qu'on a vu avant, puisque quelque chose se fige, alors que ce qui est en jeu dans tout dès l'entrée dans l'exposition, parce qu'en plus on a effectivement, on l'a dit, un casque avec on entre avec Wagner et on entre dans un espace qui est un espace scénographique qui dit aussi quelque chose de l'ensemble de l'œuvre de Kandinsky, qui va se déployer sous des formes très diverses. Donc effectivement, il s'intéresse beaucoup au chant folklorique de sa Russie natale, mais après il va vivre en Allemagne cet intérêt pour la musique, pour les couleurs, pour une certaine forme de folklore, à la fois dans la représentation, mais aussi dans ce qui l'accompagne de chants, d'histoires, de contes aussi. Il y a dans les premières salles, il y a des gouaches sur carton noir qui sont absolument splendides. Et en fait, tout ce qui est en jeu dans toutes les salles du début, enfin jusqu'à la dernière, c'est ce qui est en jeu, c'est vraiment comment le modèle musical est une voie de l'abstraction ou vers l'abstraction, et qui, à mon sens, se déploie de trois manières différentes. À la fois, ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire une révision de la théorie de l'imitation, puisque, en fait, pour Kandinsky, la musique n'imite pas la nature. Et donc, si on s'accorde, tous les sens du terme, si on s'accorde à la vibration musicale ou à quelque chose qui est de l'ordre de l'improvisation musicale, finalement, on s'éloignera aussi d'une forme de naturalisme et de figurativité. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a aussi la question de la synthèse des arts qui est en jeu très vite. Et d'ailleurs, dès l'entrée de l'exposition, avec cette dimension un peu scénographique, elle est à l'œuvre, hein, qui intéresse beaucoup Kandinsky aussi, parce que ça intéresse Wagner, qui est quand même le grand penseur avec les romantiques allemands, hein, de ce qu'on appelait la synthèse des arts et l'idée de l'œuvre d'art totale. Et que, d'une certaine manière, on voit aussi dans les décors, Stéphane Correr parlait tout à l'heure des tableaux d'une exposition, la musique de Moussorgski, pour laquelle Kandinsky fait ces décors-là et qui, justement, joue sur une multitude de mises en œuvre, de mises en jeu et de médiums. Et puis il y a une troisième question qui est celle de la théorie des correspondances, puisque Kandinsky était sujet à la synesthésie et donc il entendait des couleurs et il voyait des sons, et etc. Et en fait c'est ça qui va mettre en œuvre dans tout son travail. Donc il faut dire qu'il était avocat. Mais il jouait de la musique, parce qu'on voit des images, d'ailleurs des photographies.
Du violoncelle. On le
voit, il joue du violoncelle. Mais il découvre l'art, en fait, par l'intermédiaire, à la fois et simultanément, d'Émeule de Foin de Monet et la musique de Wagner. Il est subjugué. Et c'est de là qu'il va produire cette œuvre-là, toujours à la recherche, justement, de cette... quelque chose qui est de l'ordre de la vibration. Et c'est vrai qu'on peut utiliser un certain nombre de termes qui relèvent du vocabulaire musical, l'harmonie, le contrepoint, accord et dissonance, et ça fonctionne pour son œuvre. Et ce que recherche véritablement, et ce qu'on voit très bien dans l'exposition, il y a des tableaux magnifiques, et toute la période des tableaux des improvisations, notamment un qui est splendide, qui s'appelle Improvisation 12, le cavalier. Donc c'est un tableau très vif, très lumineux, sur fond coloré. Il y a des rayons colorés rouge, bleu, violet, qui sont entrelacés de noir et de blanc. Il y a un cavalier, sa monture, qui se distingue vaguement, esquissé par le pinceau, par des espèces de touches comme ça, qui sont riches d'une multitude de couleurs. C'est absolument magnifique. Et parce que c'est aussi un théoricien Kandinsky, et c'est important de le dire aussi, parce qu'il a beaucoup pensé son œuvre, et l'anecdote que racontait Stéphane Coréard fait partie aussi d'une espèce à la fois de légende, de mythologie racontée par lui-même dans ses textes. Mais ce qu'il cherchait, c'est ce qu'il appelait la nécessité intérieure. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre comme ça, d'une, ce qu'on appelait en allemand à l'époque aussi la Stimmung, c'est-à-dire une tonalité affective, qui est celle, en fait, qui est à l'œuvre dans les tableaux qui sont montrés dans l'exposition.
Stéphane Coréard, un dernier mot?
Oui, alors je trouve que l'exposition est très dense et riche, mais elle vaut justement peut-être encore plus par ses contrepoints et ses contrechamps. J'aurais donné quelques touches. Par exemple, l'exposition nous fait pénétrer dans l'intimité de Kandinsky via des documents personnels, des photographies, ses disques, des objets de sa collection d'art populaire. Par exemple, il y a un superbe oiseau en bois peint, des portraits de lui. Il y a une facsimilé d'une très très belle gravure de Gabriel Bunter qui le montre en contre-jour à l'harmonium. Il y a aussi son dialogue avec Schoenberg qui est absolument passionnant, parce que là on voit les lettres qui s'envoient. C'est d'abord Kandinsky qui lui écrit quand il découvre la musique de Schoenberg. Ils s'échangent des photos dédicacées. Et puis, il y a des peintures de Schoenberg dans l'exposition qui sont absolument sublimes. Un cadre extraordinaire, huile sur carton, dont un chef-d'œuvre, le regard de Karl Kraus, la Grande Muraille de Chine, de 1910, dont les yeux incandescents vous suivent, même quand vous avez quitté la Philharmonie. Et ça fait passer parfois Kandinsky un peu un cran en dessous. J'ai trouvé, par exemple, aussi, il y a un Paul Klee magnifique, Fugue en rouge de 21. Il y a un film projeté abstrait de Kurt Schwertfeger, Jeu de lumière réfléchie de 1922. Et puis après, on voit l'accord que fait Kandinsky en juin 28, une gouache pulvérisée, qui est dans le même type de travail et qui, malheureusement, est un petit peu en dessous. Il y a aussi tout un travail sur une danseuse qui s'appelle la Palouka. Et ça pourrait être passionnant, mais il ne le fait finalement que dans un article, alors qu'en même temps, d'autres vont être inspirés par Isadora Duncan, par Loïc Fuller, par d'autres grandes danseuses modernes. Et lui en fait finalement un peu moins.
Kandinsky, la musique des couleurs, c'est jusqu'au 1er février 2026 à la Philharmonie de Paris avec le Centre Georges Pompidou. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Sally Bonne.
Oui, alors si vous êtes dans le sud en cette fin d'année ou en janvier, vous avez de la chance parce que l'exposition de la poétesse Liliane Giraudon au Centre International de Poésie de Marseille est prolongée jusqu'au 31 janvier. Et c'est une bonne et belle chose parce qu'il est assez rare de voir se déployer ainsi le travail d'une vie de poétesse, d'écrivaine, d'artiste dans un même geste, contigu et passionné, entremêlé et politique, foutraque et dispersé. Et c'est une manière de se positionner dans le champ de l'écriture. C'est sa manière de se positionner dans le champ de l'écriture, à la fois profondément dedans et un peu à l'écart de ce qui serait considéré comme une trop grande élégance, celle qui se veut poétique et métaphorique. Ici, c'est plutôt le travail de la viande. Les mots sont crus ou dévorés, comme les poèmes dessinés de Giraudon qu'elle poste très régulièrement sur Instagram et que l'on retrouve notamment dans ses livres. Donc, au Centre de la Vieille Charité, au CIPM, qui est un endroit magnifique en plus. L'exposition est intitulée Liliane Giraudon, Madame Himself et l'humour poétasse. Et ce titre dit beaucoup de l'humour batailleur de Giraudon, dont le dernier livre, Peau pourrie, est paru chez POL cet automne, comme une vingtaine de ses livres parmi la soixantaine écrite. Poétasse, c'est le nom qu'elle se donne, mais sa puissance créatrice, elle n'aimera pas ce mot, est multiple. Ici, une grande générosité est à l'œuvre, tout est déposé, les carnets sont ouverts, comme se donnant à voir dans un dévoilement presque obscène. Une ouverture quasi sensuelle, des pages, des mots, des dessins, tout est là, apparemment en vrac, mais organisé cependant. Et on voit dans des vitrines, mais aussi sur les murs, des textes, des lettres, des dessins, des carnets, des images, des brouillons, mais aussi des revues. Giraudon est une grande revuiste, des livres, des récits de rêves, des films de ses lectures, des rouleaux d'écriture déroulés, des dessins d'écriture encadrés, la présence des auteurs et autrices qui l'ont accompagnée, avec lesquels elle a travaillé, mais aussi des hommages à d'autres poétesses qui traversent son œuvre et qui dialoguent avec elle, notamment Mina Loy, Emily Dickinson, Daniel Colobert, Huguette Champroux, figures pendues, accrochées. Pour finir, en citant Giraudon elle-même, ce qui fait la singularité de son œuvre, c'est bien ce geste d'écriture si puissant, car il creuse le lien entre écrire et dessiner, en propose un entrelac vif, et je la cite dans un ouvrage paru en 2002 qui s'appelle Scare, « Le dessin semble vraiment écrit, il est une manière d'écrire, dit-elle, c'est joyeux, vivant et excitant. »
Merci beaucoup Liliane Giraudon, Madame Inself et l'humour poétas, c'est au Centre International de la Poésie de Marseille.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
J'aimerais que vous nous disiez quelle est l'importance que vous attachez au dessin. Nous connaissons chez vous la magie de la couleur, votre univers, mais le dessin, c'est une sorte de révélation.
J'ai dessiné dans ma vie, vous savez, pour les tableaux, des petits dessins, mais je n'ai pas souligné le dessin comme tableau, si on peut dire.
Vous dessinez tous les jours ?
Oh, je dessine tous les jours parce que vraiment, je trouve que je n'ai rien à faire autre chose.
Chagall en 1964 sur France Culture qui nous emmène à cette exposition au Grand Palais, consacrée donc au dessin. C'est la première fois que le Centre Pompidou ouvre ainsi en grand les portes de son cabinet d'art graphique qui, avec 35 000 dessins, est un des fonds les plus riches du monde. Au Grand Palais, 300 œuvres sont exposées. On y trouve donc Chagall, mais aussi Kandinsky, Sonia Delaunay, Paul Klee, Trisha Brown, William Kentridge. Une fois qu'on a dit dessin, on ne dit rien de la diversité du trait, des sujets, ni même des techniques. Ambitieuse exposition. Donc, avis rapide, vraiment, quelques mots d'abord, Sally Bonne.
Alors, c'est une exposition effectivement ambitieuse, conçue en différentes sections et sous-sections qui peuvent perdre le spectateur, qui est faite d'enchaînements thématiques, de glissements par le motif, parfois réussis, parfois un peu forcés. Elle est dense, très riche, très fragmentée aussi, tant elle veut tout embrasser.
Stéphane Correa.
D'abord, une exposition qui ouvre par une œuvre de Jean-Michel Alberola ne peut pas être complètement ratée. C'est une exposition qui est à la fois pléthorique et lacunaire, extensive et restrictive, confuse et claire, plurielle et singulière. Une plongée fascinante dans une collection qui est quand même exceptionnelle, de premier plan, hein, qui permet de montrer une diversité d'approches et d'usages du dessin, qui, à mon sens, est servi par un accrochage très fluide, qui favorise des rapprochements stimulants et parfois inattendus.
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit dessin, déjà, Sally Bonne ?
Eh bien, justement, c'est tout ce qui est intéressant aussi dans cette exposition. Et c'est l'intérêt majeur, c'est de faire apparaître l'évolution de l'usage du dessin dans les pratiques artistiques au cours du 20e et 21e siècle. Une forme de définition qu'on pourrait dire élargie du dessin qui part de l'étude et de la préparation et qui ouvre sur l'installation, l'animation, le corps. Donc on a un passage, pour le dire autrement, du dessin comme esquisse ou travail préparatoire, comme apprentissage du regard, comme étude, au dessin comme trace, comme geste, au dessin comme œuvre à part entière. Donc c'est vraiment le dessin comme laboratoire de tous les possibles et c'est vraiment la qualité de cette exposition. Ce qu'elle montre aussi, c'est que dessiner, c'est un trait, un geste et du papier, mais c'est aussi tracer avec son corps, ses pieds, danser, découper, coller, mettre les doigts, mouiller le papier, le creuser, utiliser l'encre ou la gouache, l'aquarelle ou le graphite, le fusain ou des morceaux de journaux. Mmh. Autre chose que montre l'exposition et qui me semble essentielle, c'est que le dessin, c'est ce qui sort aussi l'art de l'image et de l'idée de chef-d'œuvre. Avec le dessin, on est au plus près, en fait, de l'idée et du geste, et moins peut-être dans la représentation. C'est pas une question de format, mais plutôt une question de proximité avec l'intention. Et, c'est ça qui rend aussi la multiplicité, en fait, des propositions sous la forme du dessin assez passionnante dans cette exposition, dans leur très très grande diversité. Hein. Et c'est aussi cette marque qui est celle de l'idée de l'inscription dans une tradition du dessin qui vient de la Renaissance, où se confondent le tracé et l'idée. Donc c'est la qualité de cette exposition, c'est d'interroger le dessin comme catégorie et de montrer des œuvres qui sont absolument splendides, certaines découvertes magnifiques. Alors l'ouverture, je suis assez d'accord avec Stéphane Correa, l'ouverture avec l'œuvre de Jean-Michel Alberola qui s'appelle « La vision de Robert Walzer ». Paupière supérieure, paupière inférieure, qui est une encre gouache et craie sur papier de 2005, est magnifique. Et à mon sens, en fait, à lui seul aurait pu constituer un programme d'exposition, tant cette œuvre mêle la question du souvenir, de l'histoire, de l'écriture et de la littérature, de la représentation d'un paysage qui devient presque abstrait. Et en fait, c'est peut-être ça le bémol, malgré vraiment la très grande qualité de beaucoup d'œuvres dont j'espère qu'on pourra reparler, mais le petit bémol, c'est d'avoir voulu embrasser à tel point l'ensemble des choses que propose le dessin, fait que parfois on se perd et on peut regretter justement de ne pas avoir peut-être condensé de manière un peu thématique certaines des œuvres. Parce qu'en fait, voilà, tout y est, quoi. Réalisme, abstraction, représentation du sujet, violence de la guerre, recherche sur le mouvement, la couleur, le corps féminin, les représentations des invisibles, enfance, caricature,
ça
intimité,
fait
quotidien. Voilà, tout y est.
Pourtant, tout n'y est pas. Vous me connaissez un peu, Marie, donc vous savez que je râle toujours. Non, c'est pas ça. C'est que contrairement à son titre, l'exposition est quand même limitée d'abord au dessin d'artiste. Ouais. Il y a un petit peu d'écrivain, comme Roland Barthes ou Michaud, un peu de musique et de danse. Mais globalement, ça fait l'impasse sur des pans entiers quand même très importants et qui sont très bien présentés au Centre Pompidou. Les dessins d'architectes et de designers, avec des dessinateurs comme Aldo Rossi ou Ettore Sottsass, qui sont juste prodigieux et malheureusement pas du tout présents. Mais la BD aussi, il y a 10 planches de Tintin d'Hergé, il y a une section qui s'appelle Raconter. Je comprends pas pourquoi le Centre Pompidou ne sort pas ses œuvres. Ça, c'est des partis pris, pourquoi pas. Il y a aussi des contraintes qui sont liées à la vie interne ou externe de l'institution. Par exemple, l'art brut qui a été montré juste avant au Grand Palais est quasiment absent, à part Gabrichevski. Il n'y a aucun dessin surréaliste, parce qu'ils sont prêtés en ce moment, je crois, à Copenhague. Très peu d'artistes femmes, parce que le Centre Pompidou a fait beaucoup de rattrapage sur les œuvres d'artistes femmes, mais pour les montrer dans le musée, donc plutôt des grandes installations, des grandes peintures, et pas de dessin. Néanmoins, c'est l'occasion pour les commissaires, qui ont fait un travail formidable, de mettre aussi en lumière des artistes plus confidentiels, parfois venant de dons assez récents, dont la collection de Daniel et Florence Garlin, par exemple, d'où sort une très très belle feuille de Marc Bruce, un artiste un peu rare, mais vraiment très très belle aquarelle et craie. Aussi des, par exemple, Pierre-Albert Biro, qui est un poète avec ses études de la guerre, ou des Espagnols comme Saora ou Tapies, qui sont aujourd'hui rarement montrés. Il y a quand même, là où l'exposition limite, effectivement, c'est qu'elle montre que le dessin sort de la feuille, sort de son cadre, qu'il soit spatial. Il y a notamment la transposition à l'échelle 1 d'un bar dessiné par Gilbert and George en 1960. Mais aussi matériel, il y a des films effectivement comme le film de William Kentridge ou de Robin Road, et puis des carnets comme ceux de Barcello, un carnet aussi de Modigliani que je connaissais pas, mais aussi processuel, il y a des dessins aveugles assez passionnants de William Anastasi et de Robert Morris. Des dessins réalisés à l'aveugle, sans regarder ce qu'on est en train de faire, et dans une sorte effectivement de performance. Là aussi il y a des ensembles majeurs, je voudrais juste en citer quelques-uns. 14 dessins de Balthus pour les Hauts de Hurlevent, 1933-1938, qui sont rentrés récemment dans les collections et qui sont juste fabuleux. Et on voit l'influence majeure que ça a eu sur le dessin du XXe siècle, mais aussi l'illustration et des choses très contemporaines. Dubuffet, 12 planches d'un voyage en métro, la connaissance de Paris par son sous-sol, avec renouvellement complet de tous les personnages à chaque station, de 1943. Un ensemble de Kupka, dont 3 femmes cueillant des fleurs, de 1909-1911, qui est juste à tomber, vous pouvez rester une demi-heure devant. 6 peintures sur papier de Marlène Dumas, très malicieusement intitulée Mixed Blood, sans mêlée, de 96, réalisée pour une exposition au Japon, où on n'aime pas beaucoup ça, le sans mêlée.
Sally Bonne, quelques conseils, parce qu'apparemment c'est pléthorique.
Alors,
comme vous le disiez.
Oui, c'est pléthorique,
il y a beaucoup de choses à voir.
Et c'est très difficile de faire des choix, mais les petits dessins de Chagall qui racontent son quotidien d'enfant à Vitebsk, dans une série qui s'appelle Notre salle à manger, où on le voit, il se dessine lui-même à la table de la maison familiale en train de dessiner, sont vraiment très beaux. Toute la série autour de la section qui met en œuvre le corps, la performance dessinée de Trisha Brown, où elle a dans chaque pied, en fait elle danse sur un morceau de papier, et dans chaque pied elle a du pastel et un fusain, et donc en fait ça produit un dessin. Les dessins à l'aveugle de Robert Morris et la vidéo où on le voit faire, en fait, parce que c'est vraiment très très beau, et même la matérialité de ce qu'il met en œuvre, la question du toucher, qui va conduire d'ailleurs dans l'exposition par effet de glissement à la question de la main et de la représentation de la main dans le dessin. William Anastasi, que j'ai à cette occasion-là découvert, et c'est absolument magnifique, et le film qui est montré avec aussi, une pièce de Brian Gesine, qui est très belle aussi, qui mêle calligraphie japonaise et influence marocaine, c'est-à-dire sur un fond tramé, qui structure le dessin verticalement, on a des signes qui semblent flotter dans l'espace, dans une section écriture qui, à mon sens, est un tout petit peu décevante, même s'il y a des très belles pièces, et notamment une œuvre de John Cage qui s'appelle River, Rocks and Smoke, 10 avril 1990, comme toujours, John Cage travaille à partir du livre des mutations, le Yiking, qui lui sert de guide, et donc il trempe une feuille dans la rivière, puis il la pose sur des herbes brûlantes qui vont par la fumée colorer la feuille, il pose des pierres ensuite dessus dont il trace le contour au pinceau. Dans cette même section d'écriture, il y a aussi les écritures pulsées de Lars Fredriksson qui sont montrées en vidéo, qui sont très belles. Des collages quand même magnifiques, un Schwitters et un Picasso évidemment. Un très beau Barnett Newman qui est en fait une encre qui est splendide. Et puis aussi des études de lumière de Sonia Delaunay qui sont très vivantes, très vibrantes, puisqu'on retrouve aussi d'ailleurs Kandinsky pour parler de la question de la vibration. Et peut-être aussi cette ligne tremblante d'une étude pour une composition de Piet Mondrian qui est assez, assez étonnante.
Ça donne envie quand même tout ça. Merci beaucoup. C'était donc Dessin sans limite, chef-d'œuvre de la collection du Centre Pompidou. C'est jusqu'au 15 mars 2026 et évidemment c'est au Grand Palais pendant les travaux. Le commissariat est signé Claudine Gramont, Anne Montfort-Tanguy, Valérie Lotte et Laetitia Pessanti-Salibone. Stéphane Coréard, merci beaucoup. D'être venu dans les midis. Et on se retrouve très très vite. Évidemment, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée. Toutes les références sont, comme d'habitude, sur la page des Midis de Culture. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.